Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes en septembre 1943. Benito Mussolini est emprisonné à l'hôtel Campo Imperatore dans le massif des Apennins. Imaginez-le donc, il y a quelques mois encore, fier dictateur à la tête de 45 millions d'Italiens, désormais seul et coupé du monde à 2200 mètres d'altitude. Surveillé en permanence par des gardes, l'homme qui vient de fêter ses 60 ans a perdu de sa superbe. Fatigué, amaigri, le visage creusé, il ne souhaite plus jouer un quelconque rôle sur la scène politique. En juillet, les Alliés ont débarqué en Sicile et le Grand Conseil fasciste en a profité pour le renverser. Depuis, sans montrer de quelconque résistance, il patiente en attendant de savoir le sort que lui réserve le roi Victor Emmanuel III. Pourtant, un homme va dans quelques jours l'extirper de cette situation délicate. Son nom ? Adolf Hitler. Oui, Mussolini et le Führer se sont rapprochés depuis 1936 et liés en 1939 avec ce pacte dangereux qu'on a appelé le pacte d'acier. Une union lourde de sens pour Benito Mussolini qui depuis 15 ans dirige la péninsule italienne en dictateur sanguinaire. Son père forgeron et sa mère institutrice auraient-ils imaginé une telle trajectoire pour leur fils? Le petit Benito naît le 29 juillet 1883 à Varani dei Costa, un hameau de 320 km au nord de Rome. C'est un élève turbulent qui devient un étudiant sérieux. Il intègre l'école normale et se rapproche des idées socialistes comme il s'en expliquera. J'avais sous les yeux les souffrances de mes parents. À l'école normale, j'avais été humilié. Alors j'ai grandi comme révolutionnaire avec les espoirs des déshérités. Qu'aurais-je pu devenir d'autre que socialiste à outrance? Benito Mussolini est un indigné permanent. Jamais dans le compromis, il gravit petit à petit les échelons politiques. D'abord professeur de français, d'histoire, de géographie, il s'implique de plus en plus dans le socialisme grandissant. Souvent arrêté et condamné pour avoir ici soutenu une grève générale, là avoir tenu des réunions non autorisées, il durcit sa position révolutionnaire et esquisse sa ligne de conduite de plus en plus autoritaire. Le 15 novembre 1914, il fonde son propre journal, Il Popolo d'Italia, au service de la gauche. Envoyé sur le front pendant la Grande Guerre, il s'illustre par son courage comme l'attestent ses supérieurs dans son carnet militaire. Activité exemplaire, qualité de combattant, esprit de sérénité, volontaire, zélé, régularité dans la réalisation de ses devoirs. Après la guerre, grâce aux actions violentes des escouades fascistes qui répriment le mouvement social, il conquiert le pouvoir lors de la marche sur Rome en octobre 1922. Après l'assassinat du député socialiste Matteotti qui avait dénoncé un régime liberticide, il fait voter les lois dites fascistissimes. Parmi elles, Mussolini peut promulguer des lois, l'élection des maires est supprimée, le droit de grève est interdit, les partis politiques sont dissous, tandis que le parti fasciste devient parti unique. La presse est étroitement contrôlée. La propagande fasciste se répand dans tout le pays et Mussolini prend le contrôle de la péninsule. Les libertés fondamentales ont disparu. Une dictature implacable est instaurée, celle de Duce, de son entourage et du Parti national fasciste. En politique extérieure, à partir de 1935, Mussolini réalise son rêve d'empire, voulant renouer avec l'Empire romain et faire de l'Italie une puissance coloniale. En Éthiopie, le fascisme mène une guerre de conquête atroce, raciste, génocidaire, qui est pourtant populaire dans la péninsule. Le roi Victor Emmanuel III le décore de la plus haute distinction, la Grande Croix de l'Ordre militaire de Savoie. En 1938, le régime adopte des lois antisémites. Entre-temps, Mussolini se rapproche de plus en plus de l'Allemagne nazie. Les deux dictatures s'engagent militairement aux côtés de Franco en Espagne. Mais la Seconde Guerre mondiale, le débarquement des Alliés et le renversement du pouvoir sonnent la fin d'une période sombre pour l'Italie. Mussolini est arrêté, l'homme se laisse faire. Il est alors ballotté d'une cachette à une autre, fête son 60e anniversaire sur l'île de Ponza et transféré sur l'île de Maddalena, près de la Sardaigne. C'est ici qu'Hitler lui envoie les œuvres complètes de Nietzsche. Le gouvernement craint que les Allemands essayent de libérer leur allié italien. Il transfère alors le dictateur dans l'auberge du Campo Imperatore où 200 hommes le surveillent en permanence. Il faut absolument que l'ancien président du Conseil des ministres reste introuvable. L'Allemagne nazie serait alors amputée de son principal allié et l'armistice serait signé plus facilement. Mais le Führer n'a pas dit son dernier mot et compte bien remettre la main sur Mussolini. Dans sa prison hôtel, Mussolini occupe une chambre confortable au deuxième étage afin qu'il ne puisse pas s'enfuir. Il fait des exercices physiques, il lit et écoute la radio, mais à l'exception de quelques militaires, personne, et encore moins les Allemands, ne sait où le dictateur est caché. Hitler missionne Otto Skorzeny, l'un de ses plus proches officiers et commandos SS, pour le retrouver. Et il y parvient. Le 7 septembre 1943, ses équipes interceptent un message codé. Ils découvrent le lieu où est détenu leur allié italien. Il faut à présent trouver un moyen de l'exfiltrer. Mais l'évasion s'annonce des plus périlleuses. Son nom de code, l'opération Eiche, le chêne en allemand. L'hôtel dans lequel est retenu Mussolini jouxte une falaise avec peu de terrain plat aux alentours. Pour y accéder, il n'y a qu'un téléphérique. Inutile de vous préciser que les militaires allemands ne vont pas venir le chercher gaiement à bord d'une cabine surplombant la montagne. Faut donc imaginer une autre solution. Otto Skorzeny, le chef des opérations, opte alors pour 12 planeurs qui ont pour objectif de se poser sur la montagne du Gran Sasso. La date est fixée au 12 septembre 1943. Dans l'après-midi, l'opération Eiche est lancée. Mais les données récoltées lors du vol de reconnaissance, effectué quelques jours plus tôt, sont légèrement erronées. La zone d'atterrissage est plus petite et plus pentue que prévu. Les planeurs manquent de s'écraser. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'avion de Skorzeny se pose à 15 mètres de l'hôtel. Il avait pris soin d'emmener avec lui un général italien pour semer le doute chez les geôliers de Mussolini. Et ça marche. Le temps que les militaires italiens comprennent ce qui se trame, les Allemands les neutralisent et Otto Skorzeny libère Mussolini. Il se serait alors présenté au dictateur italien en ces termes « Duce, c'est le Führer qui m'envoie pour vous libérer ». Mais le plus difficile est encore à venir. Ils doivent repartir sains et saufs de cette falaise étroite et escarpée. Pour assurer le trajet, Otto Skorzeny a fait appel à un virtuose de l'aviation allemande, Gerlach. Le problème, c'est que son avion, le Fischler Storch, doit voyager léger. Et Skorzeny, proche des 2 mètres et des 100 kilos, tient absolument à monter à bord avec Mussolini. L'équipage n'a pas le choix. Le pilote s'élance à toute vitesse, mais son appareil ne parvient pas à décoller à temps et part en chute libre, après qu'une roue ait heurté un rocher. Contre toute attente, Gerlach parvient à redresser l'avion à la dernière seconde. L'évasion, plutôt l'enlèvement de Benito Mussolini, a réussi. Fortement incité par Hitler à reprendre la tête de son pays, Mussolini crée le parti fasciste républicain et revient à la tête de la République sociale italienne, principalement contrôlée par les Allemands. Le sauveur de Mussolini, Otto Skorzeny, officiera quant à lui, après la Seconde Guerre mondiale, auprès du Mossad israélien contre les pays arabes.
Europe 1, historiquement vôtre.